Il est 21h à Bamako, 22h à Niamey, à Yaoundé. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. L'on lutte contre la désertification dans le Sahel. Nous verrons quels sont les projets qui marchent. Nous serons au Cameroun pour notre dossier.
Mes clients donnent un poulet et 10 dollars pour chaque excision. Et maintenant, le gouvernement nous demande de cesser la pratique. Nous n'arrêterons pas.
Le Cameroun, où une campagne contre l'excision vient d'être lancée. Yakuba, du groupe nigérien Mamar Kassé, sera dans notre page culture. Et enfin, entretien avec la ministre de l'économie et des finances du Mali en toute fin d'émission. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. La Libye dénonce l'arrestation d'un de ses ressortissants par les forces américaines. Le gouvernement exige qu'Ahmed Abou Katala soit jugé en Libye. Responsable présumé de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Libye, soulignent les autorités. Le gouvernement parle d'une atteinte à la souveraineté de la Libye et précise que les autorités libyennes n'ont pas été informées de l'opération menée par les forces américaines. L'Égypte et la Guinée-Bissau réintègrent l'Union africaine. C'est ce qu'annonce l'organisation panafricaine. L'Égypte avait été suspendue il y a près d'un an suite au renversement par l'armée du président Mohamed Morsi. La Guinée-Bissau, elle, avait été suspendue après le coup d'État militaire en 2012. Le seul pays qui reste suspendu de l'Union africaine est la Centrafrique. Au moins 21 personnes ont été tuées dans le nord du Nigeria dans un attentat à la bombe sur un site où des fans de football regardaient un match de la Coupe du Monde sur grand écran. Nathalie Barge.
L'explosion mardi soir dans la ville de Damaturu a fait plus de 20 morts et au moins 27 blessés, selon des sources hospitalières. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans un centre en plein air pour regarder sur grand écran le match entre le Brésil et le Mexique. Selon des témoins, une bombe apparemment cachée dans un taxi tricycle a explosé peu après le début du match. Damaturu est la capitale de Yobe, l'un des trois États du nord du Nigeria sous état d'urgence depuis la recrudescence d'attaques attribuées à Boko Haram. La semaine dernière, les autorités des États de l'Adamawa et du Plateau, craignant la possibilité de telles attaques, ont ordonné la fermeture des lieux de rassemblement prévus pour visionner la Coupe du Monde. Le groupe extrémiste Boko Haram a tué des milliers de personnes au Nigeria, notamment dans des attaques contre des écoles, des églises, des mosquées, des gares routières et autres lieux publics.
Et l'Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé compte plus de 330 personnes tuées par le virus. Les autorités locales signalent 5 nouveaux décès en Guinée, 4 en Sierra Leone et 5 au Libéria au cours de la semaine écoulée, chiffre communiqué par l'OMS.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et l'Espagne a été éliminée en Coupe du Monde par le Chili. C'était dans le match qui vient de s'achever. La Chili a battu les anciens champions du monde par le score de 2-0. Et à suivre tout à l'heure, Cameroun-Croatie, un match de feu où on verra soit le Cameroun éliminé, soit le Cameroun qui passera en force pour affronter le Brésil prochainement. Le gouvernement irakien demande l'appui aérien des États-Unis face à la rapide progression des djihadistes qui occupent des villes clés du nord irakien. C'est ce qu'ont révélé les responsables militaires américains. Les précisions, Michel Joseph.
Le général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes américain, a dit aujourd'hui à une sous-commission du Sénat que l'Irak a requis des frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique en Irak et au Levant. Ces derniers ont attaqué aujourd'hui la principale raffinerie de pétrole du pays, à Baiji, localité située à 200 km au nord de Bagdad. En moins de 2 semaines, les insurgés ont pris Mossoul, la deuxième ville d'Irak, une grande partie de la province de Ninive, Tikrit et des pans entiers des provinces de Salahedin, Diyala et Kirkouk. Le gouvernement indien a fait état de l'enlèvement de 40 travailleurs indiens à Mossoul après la prise de Mossoul et dit n'avoir reçu aucune information des ravisseurs. Pour sa part, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que ses forces font désormais face aux assaillants après leur déroute au premier jour de l'offensive djihadiste lancée le 9 juin. Il promet de mettre en échec le terrorisme.
La Voix de l'Amérique, tout de suite, Sahel Plus, la suite.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons sur la lutte contre la désertification dans le Sahel. Comment combattre ce phénomène ? Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel, nous parle des projets mis en place par son ONG.
Dans l'est du Burkina Faso, dans la province de la Commandjari ou de la Niania, nous réhabilitons 5000 hectares de terre avec une organisation locale qui s'appelle FIMBA, qui est composée de 7500 femmes. Cette organisation lutte depuis des années pour améliorer les conditions de production. Et donc, dans cette région de pays gourmandché où traditionnellement on fait d'abord de l'élevage, on a introduit petit à petit aussi les pratiques agricoles, des pratiques améliorées, de manière à refertiliser les terres grâce à l'élevage, à diversifier la production en créant de la production fourragère, en recréant un couvert végétal, et bien aussi on freine la désertification. Et c'est un travail de longue durée, puisqu'aujourd'hui la filière animale de production bovine a pu aussi s'étendre, est en pleine croissance, et donc le pays gourmandché exporte du bétail vers le Ghana, si bien que les femmes qui font de l'embouse bovine ont des revenus alternatifs qui leur permettent de mieux éduquer leurs enfants, qui leur permettent de faire face aussi aux crises et aussi aux risques sanitaires, etc. quoi.
Vous êtes au Niger également, je crois.
Nous sommes au Niger, dans la vallée du Dalol-Bosso, où depuis aussi une quinzaine d'années, nous restaurons le terroir, à la fois en fixant la falaise sur le Dalol-Bosso, sur ces terres très dégradées de glacis, par des techniques appropriées de conservation des eaux et des sols, mais aussi par la reforestation. Au Niger, au Burkina Faso et en Éthiopie, nous avons planté ces dernières années 3 millions d'arbres, mais il ne s'agit pas uniquement de planter, il s'agit réellement d'intégrer l'arbre dans le système de production et dans les exploitations. Et l'arbre peut être aussi une source de revenus. Au Niger, notamment, on a planté des acacias sénégales qui fournissent maintenant de la gomme arabique et qui est une source de revenus alternative, comme ça l'est au Tchad et au Soudan, pour les communautés, leur permettant justement d'assurer des revenus monétaires pendant les périodes de sécheresse.
Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel. Le Cameroun a lancé une campagne contre l'excision avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, une campagne qui vise l'éradication des mutilations génitales féminines. Reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
Dès 5 heures du matin, Ma Julie pratique secrètement l'excision des fillettes dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé. Une mère est déjà sur place avec sa petite fille de 9 ans. Ma mère m'a emmenée ici pour un traitement. Tout près de l'enfant, on peut voir deux paires de ciseaux et des lames de rasoir dans un plat. Ma Julie dit qu'elle n'utilise pas les lames dans l'après-midi lorsque les températures sont élevées, à cause des risques de saignement excessifs. C'est quelque chose qui a toujours existé dans notre tradition. Nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. Lorsque vous supprimez ces parties d'une femme, elle restera fidèle à son mari. Ne voulez-vous pas une épouse fidèle ? A-t-elle lancé à Moki Edwin Kinzeka, un correspondant de La Voix de l'Amérique à Yaoundé. Le ministère de la Promotion des Femmes et de la Famille subventionne les exciseuses pour qu'elles arrêtent la pratique. Ma Julie a reçu 100 dollars du gouvernement, mais elle prétend gagner beaucoup plus en un mois. Mes clients donnent un poulet et 10 dollars pour chaque excision. Et maintenant, le gouvernement nous demande de cesser la pratique. Nous n'arrêterons pas. La ministre de la Promotion des Femmes et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, est bien sûr contre ce genre d'argument.
Si vous essayez de discuter avec ceux qui pratiquent, ils vont vous dire, mais ils vont vivre comment? C'est pour cela donc qu'il faut arriver à leur apprendre à se passer de cela. Et on ne peut pas leur demander de se passer de cela sans leur donner des moyens de survie. Donc il est tout à fait normal de rechercher des financements pour chercher la reconversion de ceux qui pratiquent cet acte.
Environ 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'excision. Les experts médicaux ont montré qu'elle est extrêmement douloureuse et entraîne des conséquences à long terme, dont des difficultés à l'accouchement. Autrement dit, la bataille contre l'excision est loin d'être gagnée, car la pratique est encore très répandue dans plusieurs pays africains.
Un sujet réalisé par Moki Edwin Kinzeka, correspondant du service anglophone de La Voix de l'Amérique. Quelques notes de l'arrivée des Peuls de Mamar Kassé, le groupe nigérien actuellement en tournée d'été en Europe. Yakuba, le leader du groupe, revient sur leur dernier album.
Le premier morceau, le titre même qui s'appelle Tabou Sisé, ça veut dire des enfants et que leurs parents vont en exode comme aux États-Unis, comme en France, que l'enfant va naître là-bas. Mais ils ne veulent pas que l'enfant prenne la culture de là où il est né. On l'amène à la maison, donc on va le maltraiter jusqu'à l'enfant devenir traumatisé. Donc, par les gens qui ne respectent pas le droit d'enfant. D'abord, ça c'est le titre. Le deuxième, et il y a le mariage forcé qui se passe actuellement en Afrique et qu'ils vont se marier avec une fille, un adolescent de 14 ans, avec un Richard qui a de l'argent, qui va le marier et puis en 16 ans, elle va tomber enceinte et l'enfant va devenir une femme fistuleuse qui existe beaucoup. En Afrique, donc j'ai dévoilé de ça.
Ce sont des thématiques d'actualité qui vous tiennent à cœur. Hein?
Et encore, j'ai chanté sur la guerre du Mali, qu'aujourd'hui, le Mali, c'est un pays musulman. On n'a pas besoin d'amener d'autres musulmans pour coloniser encore au Mali. Ils sont déjà les musulmans, donc je pense que dans aucune Bible, dans aucun Coran, ils n'ont pas dit que de tuer ton prochain. Tu me tiens à cœur et beaucoup parce que il y a des choses en Afrique qui se passent ou bien on va dans le cadre des politiques, la personne il s'engage pour faire des fausses promesses. Quand vous votez pour moi, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela, mais par finir, c'est pas une raison. Et après ça, et puis on ne voit pas les promesses qu'il a fait avec pour les pauvres, il ne va pas honorer ça. Et donc je pense que la politique, des fois, c'est pas une trique qu'on peut donner confiance à ça, parce que il n'y a pas tous les chefs d'État qui va tenir leur parole, quoi. Donc bon, pour moi, c'est un intérêt commun, c'est un intérêt personnel. Beaucoup de chefs d'État qui ça se passe comme ça, quoi, tu vois.
Les différentes manifestations qui se passent en ce moment au Niger, notamment pour plus de liberté d'expression, quel est votre point de vue?
Je pense que la violence ne change rien. Pour moi, la violence ne change rien. Tous les Nigériens devraient se mettre sur une table pour discuter, pour la bonne marche du pays. Donc, je ne vois pas la violence ou de crier ou fermer d'autres ou l'autre faire quand quelqu'un est au pouvoir. Je pense que c'est lui, l'opposition, garde sa position, qu'on le respecte en tant qu'opposition. Le pouvoir, on le respecte en tant que pouvoir.
Yakuba, le leader du groupe nigérien Mamar Kassé. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.9 FM à Arlit et à Agadez sur la radio Nomade. La ministre de l'économie et des finances du Mali, Madame Boiré Fili Sissoko, achève ce mercredi à Washington des négociations serrées avec le Fonds monétaire international. Fin mars, le FMI avait formulé 10 recommandations pour compenser des faiblesses reprochées à la chaîne de dépenses au Mali. Le FMI s'est également inquiété récemment de l'achat de l'avion présidentiel et de fournitures pour l'armée. Bref, pour faire le point, Madame Boiré Fili Sissoko menait cette semaine à Washington une forte délégation. On l'écoute.
Du point de vue de la reprise de l'économie malienne, nous pensons que les choses repartent parce que le taux de croissance évolue suivant les perspectives que nous avions prévues. Au bout du compte, on ne sera pas à plus de 3%. En termes de taux d'inflation, là aussi, je pense qu'on sera dans des limites acceptables. Et par rapport à ça, nous pensons que bon, la reprise, elle est en bonne voie pour 2014. Maintenant, l'État, le financement de l'économie, comme vous le savez, c'est le gros problème dans nos pays. Bon, les capacités d'endettement de notre secteur privé sont telles que, effectivement, ils ont besoin d'un certain accompagnement à travers les arrangements en matière de réglementation et autres mesures incitatives. Et c'est là où on parle de l'amélioration du climat des affaires.
Est-ce que la culture du coton a bien repris?
Oui, c'est en bonne voie pour cette année. Les perspectives sont bonnes. Donc, on attend la fin de la campagne pour se prononcer là-dessus. Mais nous maintenons le cap par rapport aux perspectives initiales.
Et du côté de la dette?
Oui, du côté de la dette, je pense qu'on fait tout pour observer les plafonds d'endettement et puis les analyses de concessionnalité avant de nous endetter. Donc, de ce point de vue, je pense que les partenaires ont confiance à l'engagement, à la signature du Mali. Donc, maintenant, tout notre objectif, c'est vraiment de continuer à évoluer dans ce sens-là, en encadrant un peu mieux les garanties, parce que jusque-là, c'est un volet, effectivement, qui échappait un peu à ses repères.
Du côté des matières premières et de l'énergie, le Mali a des ressources, il me semble, en or, en pétrole.
Dans l'immédiat, ce que nous avons et sur lequel nous comptons, c'est l'or et dont la fluctuation des cours affecte certainement notre balance des paiements. Mais les perspectives 2014 en termes de projection devront être plus bonnes en termes de cours de l'or que les années précédentes, parce que les deux dernières années, notamment 2013, ça a carrément plongé.
Alors, le Mali vient de traverser une période très dure qui a dû décourager notamment le tourisme. Est-ce qu'il y a quand même espoir de reprise dans ce secteur?
Bon, nous l'espérons dans les zones où la sécurité des uns et des autres peut être préservée, parce que nous pensons que c'est là aussi un point crucial sur lequel il faut être attentif en tant qu'État. Ne pas prendre trop de risques ou faire prendre des risques inutiles à ceux qui nous font l'amitié de nous visiter, mais c'est de le relancer dans les zones où nous sommes en mesure d'assurer la sécurité des uns et des autres, c'est-à-dire là où les forces de défense et de sécurité maliennes sont présentes.
La ministre de l'économie et des finances du Mali, Madame Boire-Félix Sissoko, au micro de Camille Gros-Didier.
Galiba kawal modiba 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 talibi zadaino kata alafa.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Michel Joseph, à la console Souleymane Tarawali, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Mamar Kasset et le titre Ala Toumi. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.